Un été plus sec et chaud avec des températures moyennes supérieures, des précipitations en dessous des normales. Il y a quelques jours, les prévisionnistes de Météo France annonçaient la couleur pour décrire le temps que nous risquons de connaître cet été dans notre pays. Et ce sont 80 départements justement en France qui sont concernés par un risque de sécheresse cet été. Et après 2017, 2019 et 2020, le phénomène devient presque maintenant une habitude. Les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient partout à travers le monde, avec du jamais vu au Canada, en Sibérie ou en Iran, entraînant partout des conséquences dramatiques pour la santé des populations, l'agriculture et la production d'électricité. Les sécheresses représentent un enjeu majeur pour l'activité et l'avenir de nos sociétés. C'est le dossier de la Terre au Carré avec nos invités. Jean-Michel Soubérou, vous êtes climatologue en duplex de Toulouse. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Vous travaillez à Météo France et Emma Aziza est avec nous en studio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes hydrologue et présidente fondatrice du centre de recherche Mayanne. On va donc se retrouver dans un instant pour faire le point sur la situation, essayer de comprendre ce qui se passe en France et à l'échelle de la planète. Et puis bien sûr, vous allez répondre aux messages des auditeurs et des auditrices qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. 14h30, Camille passe au vert. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Au programme aujourd'hui.
Eh bien, sous les pavés de l'herbe, peut-être on peut le dire comme ça, des appels pour verdir et renaturer davantage les quelques 60 000 cours de récréation en France.
Dans la deuxième demi-heure, suite de la série de reportages de Guy Van Til sur les JO écolo, alors que le chantier de Paris 2024 avance à grands pas. Et puis nous serons justement en duplex du Canada pour la chronique de reporters où des températures anormalement chaudes battent en ce moment des records. Voilà pour le sommaire de cette émission. Étienne Bertin est aux commandes aujourd'hui, dossier préparé par Chantal Le Montagnier avec à la technique Adèle Caglar.
Mathieu Vida, la Terre au carré, sur France Inter.
Ce qui se passe ici à Saint-Marc, à 40 km de Paris, risque de se répéter un peu partout en France. La sécheresse fait en effet apparaître certaines insuffisances liées au développement rapide des agglomérations. À Saint-Marc, la population a doublé en moins de 4 ans et le réservoir de la commune ne suffit plus pour répondre aux nouveaux besoins de ses habitants. Alors depuis 2 jours, ce sont les sapeurs-pompiers qui viennent ravitailler. Des scènes comme celle-ci risquent de se reproduire bientôt dans votre ville ou celle de vos vacances avec la ruée du mois de juillet. Pourtant, le problème est plus général puisque l'EDF vient déjà de prendre une mesure d'économie. Baisser la tension du courant domestique.
Voilà, archive INA Antenne 2 en juin 1976 et beaucoup de Français se souviennent de cette année. Jean-Michel Soubérou, donc climatologue à Météo France avec nous. Emma Aziza, vous qui êtes spécialiste de l'adaptation face au changement climatique. Jean-Michel Soubérou, c'est vrai que ça a beaucoup marqué l'esprit des Français. 1976, c'était vraiment une année très particulière par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui où finalement ça a l'air maintenant d'une sécheresse totalement banale.
Non, enfin ça dépend de ce qu'on considère. Donc au niveau du déficit de précipitation, ça reste une année effectivement de référence. Donc une année très sèche. Enfin c'était un printemps et un début d'été très sec. Et donc que l'on continue à bien identifier dans les chroniques. Donc précédemment, au début du XXe siècle, il y avait eu une saison pire, c'est 1921. Mais 1976, c'est vraiment un été sec, ça reste un été sec. Par contre, au niveau des températures qui étaient très chaudes pour 76, aujourd'hui, elles sont effectivement très banales pour...
C'est ça, oui. Mais ça reste un choc hein, dans les esprits quand même, Emma Aziza, 76. Hein.
Je pense que c'est resté un choc, tout simplement parce que chacun a dû y mettre sa contribution financière, puisque 76, c'est surtout le premier impôt sécheresse, oui. Où l'état de calamité agricole était tel qu'effectivement, il y a eu un impact sur le plan économique et on a demandé finalement une cohésion d'ensemble à la population qui a dû finalement mettre de sa poche. Donc je pense que c'est surtout grâce à ça que ça a marqué les consciences. Parce que quand vous regardez plus largement tous les épisodes extrêmes, que ce soit des inondations ou des sécheresses, en général un nouvel événement va finalement faire oublier l'ancien. Oui. Donc là, si on s'en souvient, c'est parce qu'on a été marqué soi-même dans son individualité.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'on va devoir justement demander de plus en plus souvent aux Français de mettre la main à la poche à cause des sécheresses ou pas?
Alors c'est une vraie question. Est-ce que c'est à nous de le mettre? Est-ce que c'est au niveau des politiques agricoles européennes, mondiale, c'est des questions qu'on peut se poser. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça coûte de plus en plus cher. Aujourd'hui, les sécheresses coûtent plus cher qu'une inondation. Ce n'était pas le cas il y a encore 4 ans. Et ça paraissait même inimaginable, si vous voulez, pour le monde des assureurs qui se retrouvent aujourd'hui confrontés à des désastres colossaux. Puisque quand on dit sécheresse, bien sûr, on pense tout de suite à l'agriculture. Mais derrière, il y a aussi les dégâts sur le bâti. On a des murs qui s'effondrent parce qu'effectivement, le béton n'est pas capable de supporter 46 degrés. Parce que justement, il n'y a pas cette cohésion en fait des matériaux qui font qu'on a de nouveaux phénomènes qui apparaissent, de nouveaux dégâts. et il va falloir à un moment donné réfléchir effectivement sur cette adaptation.
Jean-Michel Soubirous, un scénario plus chaud et sec que la normale pour cet été, c'est ce qu'indiquait donc Météo France dans son bulletin de prévision saisonnière. C'est donc une prévision. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire à l'heure où on se parle justement? Est-ce que ça se précise? Est-ce que vos travaux se sont affinés là-dessus?
Alors bon, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le mois de juin que l'on vient de connaître, et le mois de mai également, ont été des mois très, très arrosés généralement sur le territoire. Donc la situation de sécheresse qu'on commençait à avoir au printemps a régressé. Donc la situation, elle n'est pas aussi inquiétante que ce que l'on pouvait redouter au mois d'avril, à la fin du mois d'avril. Voilà. Alors ensuite, donc effectivement, pour cet été, donc les modèles de prévision saisonnière dont on dispose continuent à nous indiquer donc une probabilité d'avoir un été ou une suite d'été qui soit plutôt chaude et plutôt sèche sur une bonne partie de la France.
Ouais. Et si on parle à l'échelle de la planète, alors avec ce qu'on observe aujourd'hui, des exemples partout dans le monde, on parlera du Canada tout à l'heure, des températures extrêmes qui sont très impressionnantes. Qu'est-ce qu'on peut dire là aussi?
Ben, on voit les effets du changement climatique et donc avec des phénomènes extrêmes qui se produisent et donc à tour de rôle, différentes régions sont touchées. Donc ce qui se passe au Canada, ça évoque ce qu'on a connu en 2019, à la même période exactement en France, mais sûrement quelque chose d'encore pire. Hein. Voilà, donc les températures qui approchent les 48 degrés au Canada, c'est quelque chose qui n'avait été jamais vu.
C'est ce qu'on dira en fin d'émission avec notre correspondant à Montréal. Emma Ziza, de quoi on parle finalement quand on évoque la sécheresse? Parce qu'il y a différentes formes de sécheresse. Hein.
C'est ça, en fait on distingue principalement trois types de sécheresse. La première sécheresse, c'est la sécheresse météorologique, c'est-à-dire c'est vraiment cette sécheresse au niveau atmosphérique qui constitue en fait un manque de précipitation. On a un manque de pluie, c'est ce qu'on a par exemple vécu l'été dernier. On avait atteint jusqu'à 80% de déficit de pluie. Pas une goutte d'eau dans certaines villes en France. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, qui est souvent plus connu, c'est une sécheresse agricole. C'est celle qui va concerner directement les sols. Et effectivement, c'est cette réserve en fait utilisable en eau qui va être récupérée par les plantes tout de suite, par évapotranspiration qui va repartir dans l'atmosphère. Et donc, on va avoir des sols extrêmement secs, donc une atteinte sur le plan agricole ou bien au niveau des milieux naturels. On le voit notamment avec tous les massifs forestiers qui ont été principalement touchés. Et ensuite, on a un dernier niveau, et là qui nous concerne peut-être plus directement, c'est ce que l'on appelle une sécheresse hydrologique. La sécheresse hydrologique, c'est vraiment ce débit des cours d'eau qui s'affaiblit et qui diminue jusqu'à parfois disparaître. On a la plupart de nos cours d'eau en France qui sont ce que l'on appelle intermittents, donc qui ne réapparaissent en fait, qui sont à sec toute l'année et qui ne réapparaissent que lorsque vous avez d'énormes orages. Mais effectivement, sur des cours d'eau majeurs qui sont en général en eau toute l'année, on a vu ces quatre dernières années un tarissement au niveau des nappes et au niveau des rivières qui est assez affolant, parce que qui dit rivière dit plusieurs choses derrière. Dit premièrement production électrique, parce que vous avez des barrages hydroélectriques, vous avez des centrales nucléaires, et tous ces systèmes-là ne fonctionnent que grâce au niveau du débit de la rivière. Donc on a été vraiment à la limite d'arrêter certaines centrales nucléaires l'année dernière. D'autres l'ont été, d'ailleurs. Donc ça pose la question, d'ailleurs, énergétique. Si vous parlez d'énergie, il faut nécessairement parler d'eau derrière, à part pour l'éolien et le solaire. Et enfin, ça veut dire aussi, bien sûr, cette question de l'adduction en eau potable, puisque sur certaines villes, on a vu, effectivement, des camions-citernes qui alimentaient les villages et de l'eau qui ne coulait plus dans nos robinets. C'est quelque chose qui est connu à travers le monde. 4 milliards de personnes n'ont pas d'eau régulièrement dans le robinet, mais nous, à notre échelle, en tant que Français, on ne connaît pas ça.
Mais quand on parle de la sécheresse, finalement, c'est tous ces facteurs-là qui vont ensemble?
C'est ces différentes sécheresses, en fait. Il existe différents niveaux de définition de sécheresse, et vous voyez que l'une arrive après l'autre. D'abord, il n'y a pas de pluie, ensuite, vous n'avez pas d'eau dans les sols, et puis ensuite, vous atteignez directement les rivières.
Jean-Michel Soubirous, la sécheresse, c'est un phénomène météorologique à proprement parler, ou c'est une conséquence du changement climatique? Puisque les gens, on le sait, ont souvent tendance à confondre météo et climat. La sécheresse, c'est dans quelle catégorie?
La sécheresse, c'est un événement climatique, donc c'est pas le changement climatique qui a créé les sécheresses. Donc je vous disais en introduction que par exemple la sécheresse la plus forte du XXe siècle s'était produite en 1921, et donc il y a des sécheresses qui sont relatées également dans les documents des historiens. Donc ça fait partie de notre climat. Le régime des précipitations présente des irrégularités. Le changement climatique, il accentue ces effets de sécheresse parce qu'il fait plus chaud, il y a plus d'évaporation et les sécheresses donc sont plus intenses.
Et le réchauffement climatique, justement, quand on dit on a moins de précipitations et donc ça entraîne des sécheresses, en même temps on assiste à des phénomènes assez contradictoires. C'est-à-dire que selon les endroits où on se trouve dans le monde, Jean-Michel Soubirous, on a soit beaucoup plus de précipitations, soit moins, enfin c'est totalement inégal finalement.
Oui, donc effectivement, la répartition des précipitations, elle évolue. Donc on a plus de précipitations dans les régions plus au nord de l'Europe, par exemple, et moins en Méditerranée. Et puis surtout, l'intensité des précipitations augmente. Et c'est ce que et donc on a des orages qui sont beaucoup plus forts et qui peuvent succéder. On passe très vite de situation finalement de sécheresse à situation d'excès d'eau et d'inondation, de ruissellement.
Les conséquences évidemment se font sentir en particulier dans le monde agricole. On écoute l'extrait d'un reportage de France 3. C'était le 20 mai dernier avec Christophe Giraud qui est exploitant agricole et vous entendrez également Olivier Mandex de Météo France.
Une terre aride qui s'envole en poussière au moindre souffle de vent. La semaine a été rude pour certains agriculteurs et éleveurs. 21 mm de pluie, c'est tout ce que le ciel a laissé échapper à Tours depuis 2 mois. Habituellement, c'est 5 fois plus. À Sennevières, le blé a commencé à pousser, mais avec la sécheresse, sa croissance est sérieusement contrariée.
On voit l'enroulement de la feuille, comme quoi c'est un blé qui est en état de sécheresse. On voit un état de sol qui est très sec. Et puis, si on arrache, d'abord ça vient pas mal, et c'est que de la terre sec, ça fait la poussière dès que le blé est arraché.
Une sécheresse qui met également en danger l'alimentation de ces animaux. Sans pluie, ces prochains jours, ces vaches n'auront plus rien à manger.
On n'a pas de repousse, parce qu'on voit tout de suite que dès que c'est pâturé, ça repousse pas, parce que le sol est trop sec. Bon, dans cette prairie-là, ça va tenir un peu, mais les autres prairies où j'ai des animaux, dans 15 jours, 3 semaines, s'il ne pleut pas, on n'aura plus d'herbe.
Voilà, Christophe Giraud, donc exploitant agricole, c'était le 20 mai dernier. Emma Aziza, donc le monde agricole est vraiment en première ligne par rapport à ces phénomènes météorologiques.
Effectivement, parce que dès qu'on parle d'eau, en fait, il faut savoir que l'homme utilise plus d'eau pour se nourrir que pour boire. Ça signifie qu'effectivement, nous-mêmes, quand on consomme de l'eau, on a l'impression que les chiffres de moyenne au niveau national, c'est 158 litres d'eau par jour et par habitant. Dans la réalité, on est entre 5000 et 7000 litres d'eau par jour d'utilisation d'eau. C'est de l'eau cachée, c'est de l'eau qu'on appelle virtuelle. Elle est dans notre assiette, principalement, dans nos habits, dans notre voiture. Tout ce qui va permettre la construction de quelque chose a nécessairement besoin d'eau. Même le pétrole, le gaz ont besoin pour être extrait d'eau. Mais en tous les cas, la part alimentaire, effectivement, est colossal. Et d'ailleurs, c'est sans doute l'endroit où on peut le plus travailler, puisque 70% en moyenne au niveau de la planète des prélèvements sont réalisés à des fins d'agriculture. On voit bien qu'on a vraiment une part considérable d'actions possibles dans le monde agricole, parce que si vous voulez, c'est de l'eau qu'on extrait. Et j'ai envie de dire, les industriels extraient plus d'eau, mais ils la remettent dans le circuit, puisque ça sert principalement au circuit de refroidissement. L'agriculteur, il prélève de l'eau, et ensuite cette eau est utilisée par les plantes et repart en évapotranspiration, et donc derrière va être complètement perdue, et pour le milieu, et pour finalement l'intégralité des interactions qu'il y a, donc pour la biodiversité, pour le milieu naturel. Donc on voit qu'il y a comme ça une vision qu'il faut avoir absolument globale, où l'agriculture reste au centre.
Justement, Patrice sur franceinter.fr nous demande si la réintroduction de haies permettrait de lutter en partie contre les sécheresses agricoles. Dans ce cas, quelle surface de culture ne faudrait-il pas dépasser sans un périmètre de haies, Emma Aziza?
Alors, effectivement, les haies, comme toute l'agroforesterie, fait partie des solutions qui correspondent à des solutions vertueuses, qui permettent déjà de l'ombre, ensuite de recréer en fait des petits microcycles de l'eau, puisqu'on a perdu en France 50% de nos masses humides, qui permettaient en fait ces cycles de l'eau à petite échelle. On a tendance à considérer le cycle de l'eau à grande échelle, en imaginant tout de suite une précipitation, l'eau s'écoule, une rivière. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça, et il faut bien comprendre que la différence entre la Namibie, qui est un désert, et le Brésil, qui est un des grands géants de l'eau, en fait vient du sens des vents. Et en fonction du sens des vents, si vous avez du vent qui vient de l'océan en direction de la terre, effectivement, vous allez avoir de nouvelles pluies. C'est ce qui se passe en France sur la façade atlantique. Les pluies qui sont apportées par la façade atlantique avec ces vents vont venir permettre des pluies à Brest qui ensuite permettront des pluies à Strasbourg. Et donc ça, quand ça ne se produit plus quand on a des anticyclones, vous coupez ce cycle. Et donc vous rendez aride une terre assez rapidement alors qu'elle était jusque-là tempérée.
Le Brésil qui connaît aussi des épisodes de sécheresse d'ailleurs en ce moment, on en parlera dans un instant. Dossier donc consacré à ce phénomène climatique et météorologique avec nos invités. Et bien sûr vos messages nombreux déjà sur le site de la Terre au Carré, franceinter.fr pour nous retrouver.
Il y a du soleil dans ma rue, mais je ne sais pas quoi en faire. Dans les jardins de la vertu, Minerve s'habille en guerrière.
Mais moi qui ai rien d'un Mantegna, d'un Bellini, d'un Delacroix, je la peins sous les traits d'un vin. Dans la poussière, les bras en croix. Dans la poussière, les bras en croix. Il y a du soleil dans ma rue, mais je ne sais pas quoi en faire. Je me sens comme un ange déchu qui se serait trompé d'atmosphère. La première meuf que j'ai connue m'a expulsé à 4 du mat dans une maternité perdue qui fabriquait des automates. Qui fabriquait des automates. Y'a du soleil dans ma rue, mais je ne sais pas quoi en faire. J'évolue et je vole à vue, loin des circuits réglementaires. Avec mes pensées qui s'encrassent, dans le froid de mes nuits d'exil, j'arrive plus à faire cette grimace qui sert de rire aux imbéciles. Aux imbéciles. Y'a du soleil dans ma rue. Y'a du soleil dans ma rue, mais je ne sais pas quoi en faire. La fille du soldat inconnu me dit putain beau militaire. Avec l'arsenal souterrain, planqué à l'abri de tes lois, chacun des 7 milliards d'humains peut être tué 40 000 fois. Tué 40 000 fois.
Et c'est une nouveauté, le retour d'Hubert Félix Thiéphaine avec Du soleil dans ma rue.
La Terre au carré. Sur France Inter.
À perte de vue, ces quais pour amarrer les bateaux sont à sec. Le niveau de l'eau devrait être 20 mètres plus haut.
Ici, en temps normal, on serait sous l'eau. On n'a jamais pu descendre jusqu'ici. Vous voyez la ligne verte là-bas avec les arbres ? C'est le niveau de l'eau en temps normal. Mon Dieu, c'est dingue.
Nous voici maintenant à San Francisco, l'une des métropoles les plus riches d'Amérique. Distribution de kits pour économiser l'eau à la maison.
Nous avons des embouts plus économiques pour les tuyaux d'arrosage, un mousseur pour le robinet, des chronos pour la douche pour réduire leur durée et les tablettes pour détecter les fuites d'eau.
Dans ce comté, les habitants ont l'obligation de réduire leur consommation d'eau. Moins 40%. 93% du territoire californien est aujourd'hui touché par la sécheresse.
Voilà, un exemple parmi tant d'autres, la Californie, pour évoquer donc la sécheresse dans la Terre au carré avec nos invités Emma Aziza et Jean-Michel Soubirous. Justement, Jean-Michel Soubirous, quand on voit aujourd'hui les différents rapports, on peut évoquer celui du GIEC qui a fuité il y a quelques jours, ceux dont vous vous occupez, vous également, les phénomènes extrêmes observés partout sur la planète, finalement, ça vous inspire quoi, ce qu'on est en train de vivre là, en ce moment, en 2021?
C'est quelque part des choses qui sont annoncées depuis pas mal d'années par le GIEC. Et donc, ce sont des confirmations. Donc, alors, c'est toujours des phénomènes quand même très, très, très violents, on va dire. Hein. Donc, ce qui se passe, par exemple, au Canada, enfin, ou les autres phénomènes, ou en Sibérie, ces vagues de chaleur. Et c'est à la fois c'est inquiétant et on sait vers où on va, puisque c'est déjà éclairé dans les différents rapports du GIEC.
Emma Aziza, avant qu'on commence l'émission, tout à l'heure, vous me disiez, franchement, là, je commence vraiment à être très, très inquiète.
Oui, parce qu'effectivement, en fait, jusque-là, on a toujours une variabilité climatique naturelle. On traversait le Rhin à pied en 1303. On a eu des sécheresses catastrophiques dans le monde à la fin du 19e siècle, où il y avait 2 à 4% de la population mondiale qui a été décimée. On sait ce qu'est une sécheresse et une famine associée. Là, ce que l'on voit, c'est quelque chose de complètement nouveau. C'est-à-dire qu'on sort des repères statistiques et de la variabilité naturelle que l'on avait. On bat des records systématiques en permanence. Mm-hmm. J'ai envie de dire mois après mois, semaine après semaine, jour après jour.
Avec un effet cumulatif, évidemment, de tous ces événements.
Exactement. Et quand on regarde la Californie, effectivement, il faut se poser des questions aujourd'hui ici, parce que on n'est pas concerné pour le moment, parce qu'on est sous un effet de gouttes froides successives, effectivement, qui nous amène ces pluies et ce froid en France. Mais juste à côté de nous, on a des terres qui brûlent, que ce soit à Moscou, que ce soit toute la zone qui monte, enfin qui part du Mexique, effectivement, qui remonte jusqu'à Seattle. Il y a déjà un mois, on déplaçait des populations autochtones au Canada pour parce que justement, il y avait de trop grands feux de forêt. Et encore aujourd'hui, donc on atteint ces 47,9 degrés. Bientôt 50 degrés. Et surtout, on voit que la Californie, en fait, le temps le plus chaud est prévu pour le mois de septembre. On n'est pas encore en phase d'été. Donc, l'année 2020 a été une année record, des populations qui ont été traumatisées. On voit que un peu partout sur la planète, on a ces petits paramètres aggravants qui viennent nous alerter. Et quand vous gérez une crise en général et que vous faites un retour d'expérience après, vous essayez d'analyser s'il y avait ces paramètres avant que l'on aurait pu voir. Là, on les voit.
Ils sont clairement
on
là.
On voit
oui.
ces 80.8 degrés, effectivement, qui ne correspond pas à une température atmosphérique, mais une température terrestre.
Ça,
mais
c'est pour le Mexique et l'Iran. Il y a eu deux déserts dans le monde
exactement.
Où on a atteint plus de 80 degrés donc, au sol. Hein, au sol.
Donc 80,8 degrés au sol, mais c'est 10 degrés supérieur à ce que l'on avait eu comme record historique. Donc vous voyez que partout, plus la température mouillée dont vous parliez tout à l'heure avec cet effet d'humidité, le corps humain, en fait, est en train d'atteindre ses propres limites. Et effectivement, ça inquiète.
Justement, vous disiez tout à l'heure, Jean-Michel Soubérou, qu'en 76, les températures qu'on connaissait sont aujourd'hui banales. Ça veut dire qu'un 45 degrés, un 50 degrés sera peut-être banal dans 50 ans. Et est-ce que notre corps sera adapté comme il s'est adapté par rapport à 76, ou il y a un moment, il va dire stop?
Bon, alors déjà, ces valeurs, il ne faut pas les banaliser, justement, hein, parce que donc 45 degrés, donc on l'a connu en France qu'en juin 2019, et 50 degrés, ça n'a jamais été mesuré en Europe. Donc quand on parle de 50 degrés, donc on parle vraiment de quelque chose que l'on ne connaît pas, non seulement à l'échelle de la France, mais y compris à l'échelle de l'Europe. Alors effectivement, donc dans les projections climatiques au-delà de 2050 et selon les trajectoires que l'on va suivre, donc si on continue à avoir autant d'émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, donc ce sont des choses qui vont devenir possibles. Mais on plonge un peu dans un monde que l'on ne connaît pas. Et donc un petit peu comme aujourd'hui au Canada, donc ils font l'expérience de températures qu'ils n'ont jamais vues.
Ouais.
Et voilà. Et donc là aussi, et donc derrière, effectivement, donc le lien entre la variabilité naturelle, donc retrouver des phénomènes qu'on avait déjà vus dans le passé, ou alors découvrir. Être confronté à des choses qu'on n'a jamais vues, c'est pas du tout la même chose.
Juste un mot sur le mois de mai qui a été tellement pluvieux et pourri pour tout le monde. Est-ce que ça a pu aider Jean-Michel Soubérou à renflouer un petit peu les nappes phréatiques ou pas du tout ?
Généralement, donc les précipitations du mois de mai, elles bénéficient à la végétation qui en avait besoin en plus, hein, dans de nombreuses régions. Donc cette eau, elle a été captée par les végétaux qui ont pu en profiter pour pousser. Et donc ça remplit pas les nappes, et donc il y a toujours, je pense, une situation qui est assez contrastée au niveau des nappes en France, et donc il y a toujours une susceptibilité éventuellement dans certaines régions à avoir, si une sécheresse se développer, donc il n'y a pas forcément de la ressource en eau souterraine pour soutenir tous les usages.
Justement, Florence sur franceinter.fr nous demande pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des réserves d'eau l'hiver, dit-elle, quand on voit ce qu'il a pu cette année, Emma Aziza.
Parce que la manière dont on fait des réserves d'eau aujourd'hui en France, ces grandes bassines, notamment en général pour des raisons agricoles, elles sont faites soit en extrayant la nappe qui est située dessous, soit en allant chercher l'eau dans la rivière.
Mais pourquoi pas en prenant l'eau de pluie tout simplement?
Alors,
qui tombe.
Ça se fait d'ailleurs à l'échelle individuelle, vous avez des récupérateurs d'eau de pluie qui vous permettent déjà d'arroser votre jardin, qui est une solution au niveau local. Maintenant, au niveau global, vous allez avoir en fait une eau qu'on va récupérer, qu'on va mettre en superficie, qui déjà va se réévaporer en grande partie, entre 20 et 30% de perte de cette eau. Deuxièmement, elle va directement être soumise à des attaques bactériennes, virales, etc. Donc il faut la traiter, cette eau. Et donc ensuite, si vous voulez, c'est de l'eau qui ne va plus être dans les milieux récepteurs. Et on a l'impression qu'en fait, moi j'ai entendu ça m'a choquée, parce que je me dis, mais finalement on n'a pas pris conscience de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on voit la rivière, et j'ai entendu des gens me dire, mais cette eau, on la perd, elle part dans l'océan, autant la récupérer avant. Et ce que l'on n'a pas compris, c'est qu'en fait, on est sur un écosystème global, avec ce que l'on appelle des chaînes trophiques, où vous allez avoir un animal qui va manger un autre, qui va manger un autre. Et toute cette chaîne, en fait, alimentaire, nous permet, nous, ensuite, d'avoir une assiette. Et donc, quand vous allez atteindre, en fait, le niveau d'eau, et que vous allez diminuer le niveau d'eau douce qui rentre, justement, dans les eaux salées, vous perturbez, littéralement, l'intégralité de tous ces systèmes. Et donc, il faut penser autrement, il faut revoir nos méthodes agricoles, il faut revoir effectivement des solutions qui sont fondées sur la nature, qui permettent par exemple d'utiliser l'ombre, qui permettent de revoir nos parcelles, ce qu'on voit très bien d'ailleurs que, on n'en a pas parlé, mais ces pluies extrêmes qui se déroulent sur ces surfaces agricoles, finalement...
Ça glisse en fait. Hein.
Ben, emportent des grandes parties de sol et qui c'est principalement dû à la manière dont on a traité nos sols. Donc vous voyez, c'est une question qui est beaucoup plus globale et il faut penser ça global en se disant que le premier utilisateur de l'eau, c'est le milieu naturel et il ne faut jamais l'oublier.
Jean-Michel Soubirous, rapidement, vous avez coordonné un rapport DRIAS 2020 qui éclaire la France et le climat de la France en 2100. Et puis également, vous êtes sur ce projet ClimSec qui donne aussi des indications sur le sol en France. Est-ce qu'on risque de voir disparaître des cours d'eau, des rivières dans les décennies qui viennent dans notre pays, purement et simplement ?
Comme Emma Aziza l'a dit précédemment, hein, donc on a certains cours d'eau qui sont intermittents en France et en situation de sécheresse. Donc on voit effectivement donc les cours d'eau qui se tarissent. Ce genre de situation risque de se reproduire et d'augmenter en fréquence dans les prochaines années. Dans un climat plus chaud, il y a plus d'évaporation.
Oui.
Et cette évaporation, elle n'est pas compensée aujourd'hui par un excès de précipitations. Les précipitations, elles sont globalement stables avec une forte variabilité, voire elles sont en légère diminution sur certaines régions dans le sud de la France.
Oui.
Donc on a, de manière mathématique, donc, un assèchement des sols et un assèchement globalement, une diminution globalement de la ressource en eau, y compris pour les cours d'eau et les nappes.
Allez, amis auditrices et auditeurs, vous avez beaucoup de questions à poser à nos invités. Profitez-en, franceinter.fr, on les pose dans un instant.
France Inter. La Terre au carré.
14h31, Camille passe au vert avec Camille Cronier. Des initiatives de plus en plus nombreuses pour verdir les cours de récréation.
Oui, parce que c'est tristou une cour de récré aujourd'hui, n'est-ce pas les enfants?
C'est du béton. C'est dur si tu tombes. Quand il fait chaud, souvent on essaye de se mettre à l'ombre, mais dans certaines cours, il n'y en a pas beaucoup.
Voilà, tu m'étonnes avec effectivement tout ce bitume qui garde la chaleur pendant que les élèves ont, quand ils ont de la chance, un vieux marronnier qui traîne. Bon, j'exagère, mais à peine, hein, parce que les 60 000 établissements scolaires français sont tous très asphaltés, et cela depuis longtemps. 1878, Jules Ferry, la loi, impose aux municipalités de construire des écoles, mais le béton arrive un petit peu plus tard, comme me l'a expliqué Anne-Marie Châtelet. Elle est professeure d'histoire à l'école d'architecture de Strasbourg et elle a écrit un livre sur les architectures scolaires.
C'était le modèle le plus classique. Hein. Peu à peu, on a adopté des revêtements minéraux, mais l'idée n'était pas de faire des cours en béton à l'origine. Hein. C'était pas non plus forcément de faire la forêt. Hein.
Non, à la base, elle disait le modèle le plus classique, c'était la terre tassée, la terre battue. Le béton arrive donc un petit peu plus tard, courant du XXe siècle, sans instruction particulière, mais tout le monde a bien compris son côté pratique.
Je ne sais pas si vous êtes à Paris, mais les cours de récréation à Paris étaient très plantés au départ. Hein. Simplement, après, y a des feuilles d'arbres qui tombent, il y a des enfants qui se cassent la figure, donc il faut nettoyer, voilà. C'est des choses qui sont très positives pour les enfants, mais qui nécessitent de l'entretien. Et donc, à partir du moment où il y a des économies à faire, et voilà, c'est très simple. On met des revêtements qui sont minéraux et comme ça, ça permet de limiter l'entretien.
Et tout cela a donc du plomb dans l'aile, hein, entre le réchauffement climatique et le besoin d'îlots de fraîcheur et le besoin d'éducation à la nature, voire par la nature. On casse le bitume. Des cours oasis sont apparus depuis bientôt 4 ans à Paris.
Ici, nous avons une zone humide. Nous avons ici un petit pont qui permet de passer dans la zone de copeaux. Une rivière pédagogique. Elle est alimentée par les eaux de pluie qui sont récupérées sur ce toit. Et il y aura ici un tunnel de verdure qui permettra aux enfants de rentrer et d'avoir l'impression d'être dans un milieu vraiment naturel.
Pas mal, hein.
Ouais, c'est où, ça
c'est à Paris. Ça vient d'une petite vidéo sur Internet de l'école Emeriot dans le 15e arrondissement. Mais ces cours verdis existent aussi à Strasbourg, à Lyon, à Rennes, à La Rochelle, dans la Loire. Des projets sont en cours aussi à Rouen. Bref, un petit peu partout. Et l'association Agir pour l'environnement en remet une couche. Elle vient de lancer une campagne pour débitumiser et revégétaliser les cours d'école. J'en ai parlé avec la coordinatrice Aurore Bonnefoy.
beaucoup moins de béton, beaucoup plus de terre, de l'herbe, favoriser tout ce qu'il faut pour la faune et la flore. Des nichoirs, des hôtels à insectes, des mares didactiques, voilà, des petits chemins de pierre, des endroits où il y a des haies, des herbes hautes, des herbes basses, des petits arbustes, des grands arbres. Enfin, ça ressemble véritablement à un jardin.
Car au-delà du bénéfice pour le vivant, hein, ce genre de cours de récréation aurait un tas de bénéfices pour les enfants, avec moins d'agressivité et plus de coopération, en témoigne la directrice de l'école Emerio, Isabelle de Chauvron.
Ils s'approprient tout de suite les lieux, donc ça donne une cour de récréation qui est très calme, très apaisée et en même temps très active.
Et l'anthropologue et professeur en sciences de l'éducation à l'université de Caen, Julie Delalande, qui a fait de la cour d'école un objet de recherche, confirme.
En fait, on se rend compte que l'aménagement de la cour va beaucoup influer sur ce qu'on y fait. Donc tout ça, effectivement, quand on a des éléments naturels, qu'on peut casser des brindilles, qu'on peut arracher des petites feuilles, qu'on peut creuser dans la terre, ça va servir leur imaginaire. C'est à ce niveau-là qu'il me semble que c'est important qu'il puisse y avoir des éléments naturels dans une cour de récréation, parce que c'est une source quasi infinie de petits éléments qu'on va pouvoir insérer dans nos jeux.
Il y a tout à y gagner, ou presque, hein, parce que ça implique quand même de revoir toutes les habitudes côté adulte et organisation, hein, pour la surveillance et le nettoyage, avec des zones par exemple de décrottage, ça existe en Belgique, en Allemagne. Et puis l'agadou, ben, à la fin de la récré, ça gêne peut-être pas que les, ça gêne plutôt que les grands, mais c'est un élément à prendre en compte, hein, pour éviter les glissades en particulier. En tout cas, une cour d'école toute verte, les élèves que j'ai rencontrés ce matin à l'arrivée disent banco, voici leur cour idéale.
Moi, j'aimerais bien une ruche. Je veux que les arbres, ils sont plus grands dans la récré.
Que ce soit de l'herbe.
Pourquoi ?
Parce que c'est mieux.
T'aimerais bien que ce soit un jardin à la place de la cour de récré ? Tu peux me dire pourquoi ?
Parce que sinon, on peut faire des bobos.
Des fleurs ? Ouais. C'est joli, les fleurs.
Des fleurs.
Lesquelles ?
Toutes les sortes de fleurs.
Oh, ça va, hein,
de l'herbe,
des fleurs, des arbres, ils sont pas compliqués en fait. Hein.
Voilà, et c'est Camille Passot Vert avec ses nouvelles cours de récréation, ça à découvrir, à réécouter sur franceinter.fr.
Emma Aziza, le cycle de l'eau dans une cour de récréation, c'est presque zéro, une cour bétonnée, c'est imperméabilisé.
Alors effectivement, quand vous parlez de ce type de solution, on est pleinement dans la question de l'adaptation. Mmh. On est en train de trouver des solutions qui permettent de nous adapter à ces nouveaux contextes et surtout de permettre un système vertueux qui va justement recréer des petits cycles de l'eau à petite échelle. Il ne faut pas croire que ça n'a pas un impact, au contraire, ça a un impact sur les sols, sur le taux d'humidité et donc derrière sur la température ambiante. Et donc on voit bien qu'en France, il va falloir agir sur toutes les écoles, mais sur tous les hôpitaux aussi. Rappelez-vous, en juin 2019, on avait des hôpitaux qui étaient en train de suffoquer entre les 42 degrés qu'on avait à Paris et les 46 degrés dans le Gard. Mais c'est aussi...
Mais sur les routes, pardon, du coup, si je vous écoute, est-ce qu'il faut débitumiser les routes, bah, par exemple?
En tous les cas, il faudrait modifier la question de l'albédo, c'est-à-dire justement blanchir plus les routes,
pour envoyer mieux la chaleur,
végétaliser, blanchir, que ce soit les routes, les murs, ou que ce... En fait, c'est tout un tas de solutions. La question des îlots de fraîcheur est une question qui devient urgente. Et puis, cette question que vous vous posez sur les canicules, on se la pose aussi sur les inondations. Et là encore, il existe énormément de solutions pour faire en sorte que l'eau ne rentre plus dans les bâtiments. Donc, vous voyez, c'est une action d'ampleur massive. La question de l'adaptation, c'est une question très locale et ciblée, alors que la question de l'atténuation des gaz à effet de serre, c'est un bénéfice planétaire. Mais là, il va falloir agir effectivement au niveau local.
Allez, on se retrouve dans un instant pour parler de la sécheresse avec les messages des auditeurs, bien sûr, qui sont nombreux sur franceinter.fr. Voici The Black Keys à l'instant. Bon après-midi avec nous. Well, I'm a crawling king's neighbor. Thank you. Rolling King Snake avec The Black Keys à l'instant.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Nos invités Emma Aziza et Jean-Michel Soubirou pour parler de la sécheresse. Jean-Michel Soubirou, pour aller vite, s'il faut agir concrètement, efficacement sur la ou les sécheresses, évidemment, par quoi on commence ? Les émissions de gaz à effet de serre, ça reste toujours la même chose ?
En tout cas, c'est un aspect important de l'aggravation des sécheresses en France aujourd'hui. Donc, effectivement, donc, si on veut s'attaquer à cette récurrence de sécheresse de plus en plus importante, il faut bien traiter la question de l'atténuation, comme l'a dit Emma Aziza juste avant. Et donc ça, c'est un problème planétaire qui nous concerne tous. C'est un point. Ensuite, donc, il y a des solutions aussi pour mieux gérer la ressource en eau. Donc on en a déjà évoqué quelques-unes.
Question de Julien sur franceinter.fr. Il nous demande comment le réchauffement climatique peut-il faire diminuer la pluviométrie. Il demande si l'évaporation des océans n'est pas plus importante. Alors je ne sais pas si c'est vous, Jean-Michel Soubirou, qui devez répondre à cette question.
Je peux commencer, peut-être donc Emma Aziza complétera. Donc effectivement, dans un climat plus chaud, il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, hein, et globalement, donc les précipitations, elles peuvent être plus importantes à l'échelle de la planète, mais toutes les régions n'en bénéficient pas, et donc ces pluies, elles se concentrent dans les régions les plus humides aujourd'hui, les régions équatoriales, et puis les régions septentrionales, et donc ça ne veut pas dire donc que l'augmentation des précipitations concerne toute la planète, loin de là, puisque les zones plus sèches, au contraire, ça grandit.
Emma Aziza, pour compléter.
Bah effectivement, on a vraiment la même quantité d'eau sur Terre depuis l'époque des dinosaures jusqu'à nos jours. Sauf que, effectivement, elle est moins bien répartie. On a des zones totalement arides. On a des zones où ça s'intensifie, si vous voulez, puisque plus vous avez des degrés dans l'atmosphère, plus vous allez avoir un pouvoir précipitant. Et donc, plus vous allez avoir des pluies torrentielles. C'est ce que l'on a connu, notamment dans la Tinée, la Vésubie. Donc, on voit qu'on est d'un extrême à l'autre, partout sur la planète. Et c'est vraiment le problème majeur à venir demain.
Philippe dit sur les régions où il y a des collines, les rigoles en pente douce qu'on a délaissées sont à reprendre pour deux raisons, humidifier les sols et diminuer les effets des fortes pluies ponctuelles.
Je pense qu'il faut revoir l'intégralité de nos territoires en fonction des spécificités et remettre de la cohérence dans le tout pour permettre de l'absorption des sols, justement de l'eau, et permettre de réalimenter les nappes.
On a un message de Anne qui nous dit qu'elle a 65 ans et qu'elle se souvient que lorsqu'elle était enfant à Montpellier, l'été, il y avait régulièrement des coupures d'eau chez les particuliers pour économiser les nappes phréatiques. On en parlait en début de l'émission. Et elle nous dit qu'aujourd'hui, chez elle, elle recycle l'eau de lavage des légumes ainsi que la gamelle d'eau du chat pour arroser ses plantes et qu'elle choisit d'ailleurs peu gourmande en eau. Des petites solutions comme ça, très locales à la maison, Jean-Michel Soubirou, c'est bien, mais est-ce que ça peut être suffisant ?
Écoutez, je pense que tous les efforts sont bons à prendre, hein, et sûrement il y a un travail important à faire sur les comportements et des individus, de chacun de nous. Et je pense qu'on a besoin d'être accompagné d'ailleurs pour connaître les gestes utiles. Donc voilà, il y a des solutions qui viennent d'ingénierie, mais il y aura aussi des solutions plus personnelles et excusez-moi. Et donc voilà, donc je pense que toutes les solutions sont bonnes à prendre et qu'on a besoin d'aider à identifier les bonnes solutions.
Chassez votre chat.
Merci. C'est la gamelle du chat. Là.
Dominique nous écrit, pourquoi les agriculteurs peuvent-ils continuer parfois à arroser en pleine chaleur et en plein soleil ? On a aussi un message de Michel qui parfois dit, il y en a marre de voir les agriculteurs arroser quand d'autres doivent être restreints, et qui nous ajoute, quand je vois aussi les WC, les lave-linges fonctionner à l'eau potable, je hurle, Michel. Qu'est-ce que vous nous en dites, Emma Aziza ?
L'utilisation de l'eau agricole, c'est 80% l'été de l'eau disponible. Donc on voit bien que la part la plus importante va se passer au niveau agricole.
Mais ils ne peuvent pas arroser la nuit, par exemple ?
Et effectivement, une des solutions, c'est effectivement d'arroser la nuit. Et souvent, ce n'est pas fait.
Pourquoi ?
Surveille ? Après, tout dépend des logiques, mais je pense que la reconversion des terres, la manière de changer nos modes agricoles, de changer les calendriers agricoles, les types d'espèces, le fait de rendre plus résilients les sols, fait partie des grandes solutions au niveau agricole.
Allez, on se retrouve dans un instant. D'autres questions pour vous, mais pour le moment, c'est l'heure d'accueillir Guy Van Til. Bonjour Guy.
Bonjour à toutes et à tous.
Deuxième volet de votre série de reportages sur les JO écolo, à moins d'un mois des Jeux de Tokyo, et alors que le chantier de Paris 2024, lui, avance à grands pas.
Oui, vous vous souvenez des Japonais mécontents
qu'on a entendu hier.
Oui.
Eh bien, les mêmes causes produisant souvent les mêmes effets, en Seine-Saint-Denis aussi, des habitants se mobilisent pour dénoncer la bétonnalisation des grands projets qui, à vrai dire, accompagnent immanquablement chaque édition des Jeux. Rencontre avec donc des membres du comité de vigilance, JO 2024, qui réunit des associations et des collectifs de citoyens et qui nous emmène en toxic tour entre le Stade de France, et le futur village olympique à Pleyel sur quelques-uns des chantiers contestés. Au moins 4 actions en justice sont en cours actuellement.
Voilà maintenant qui nous rapproche un peu plus des JO de Paris 2024.
Porte de Paris, accès au Stade de France.
Et vous allez le voir, le projet retenu a fait la part belle à l'écologie.
On va faire des jeux verts.
Les plus verts de l'histoire.
Et en région parisienne, plus particulièrement en Seine-Saint-Denis, la construction de nombreuses infrastructures sont prévues.
Là, on passe l'autoroute A1. C'est l'un des endroits les plus pollués de France. C'est là que vont avoir lieu les épreuves olympiques, que ce soit pour le Stade de France ou pour le centre aquatique, dont on va aller voir l'emplacement.
Si je puis me présenter, donc Victoria Chabran, présidente de l'Union des associations des riverains du Stade de France, un titre à la Oudiard, mais enfin, c'est à la dimension du Stade de France, vous savez.
Oui, tout à fait. Donc Cécile Gintrac, je suis membre du comité de vigilance JO à Saint-Denis depuis septembre 2017. Quand on a creusé en fait les dossiers de chacun des projets en termes environnementaux, on s'est rendu compte des limites assez importantes de chacun des projets, des nouveaux problèmes que ça a causé en termes de circulation et de pollution, alors qu'on est déjà pas mal désavantagé de ce côté-là.
Dans la passerelle, on s'éloigne un tout petit peu du périph' et du bruit des voitures, mais pas pour longtemps.
Ah non, ça va revenir tout du long, en fait. Tout du long du Toxic Tour, on va avoir des bruits de voitures, c'est justement le problème.
Allez, monsieur, laisse passer, on en profite là.
Non, mais c'est vert, hein.
Le principe du Toxic Tour, c'est des mouvements qui sont nés aux États-Unis pour montrer les injustices environnementales sur place, pour prendre la mesure des choses.
Et développer ce qu'on appelle l'expertise citoyenne, c'est ça?
C'est ça, complètement. Complètement.
On est traité d'agité, voilà.
Vous n'êtes même pas vous une agitée, vous.
Non, pas du tout. Ce qui me préoccupe, c'est toute l'agitation à notre niveau, avec la formidable symphonie que vous pouvez entendre sur cette avenue Wilson. Voilà, alors qu'on a quand même 200 000 véhicules jour sur ces autoroutes, il y a l'A1 et l'A86.
Généralement, quand je fais un toxic tour, après j'ai mal au crâne, parce qu'on passe par tous les endroits délicats, et c'est vraiment, c'est pas facile.
Toxique, hein.
Donc on a fait plus bucolique comme promenade, quoi. Alors,
je ne vous le fais pas dire.
Vas-y, passez devant, parce que là,
ouais,
ça fait...
Bienvenue à Pleyel-Bord-de-Seine, 50 hectares à cheval sur Saint-Denis, l'île Saint-Denis et Saint-Ouen. Le projet impliquerait l'aménagement des bords de Seine ainsi que la construction d'un échangeur et d'un mur anti-bruit sur l'A86. Les autorités locales de Seine-Saint-Denis applaudissent.
Ici, on va rentrer dans le quartier Pleyel. On voit la tour Pleyel ici qui est désossée.
Une vieille tour.
Donc là, il va y avoir une deuxième tour à côté. Mais là, on voit donc tous les travaux de l'échangeur qui ont commencé.
Et là, on passe devant un panneau qui dit A1, A86, aménagement des échangeurs Pleyel et Porte de Paris. Montant de l'opération, 95 millions d'euros. Solideo, société de livraison des ouvrages olympiques, travaux de 2021-2023. Merci de votre compréhension.
Et en fait, ce qui se passe ici, alors que je suis géographe, moi j'ai jamais vu une telle concentration de projets urbains dans le quartier Pleyel. C'est le village olympique, ce nouveau quartier d'affaires, la gare du Grand Paris Express, cet hôtel 4 étoiles et aussi le franchissement qui est censé rejoindre ce quartier, le nouvel échangeur et tout ça à réaliser dans un temps record.
Ce que vous dites, c'est que avec le jackpot annoncé des JO, c'est devenu une orgie de bétonneurs tout ça, cette JO écolo.
Donc il va y avoir plus de voitures ici. Plus de voitures là, et en fait, dans ce quadrilatère, ici, il y a l'école.
Là, on voit que c'est la sortie des classes.
Donc ça, je pense qu'Hamid vous en parlera largement.
Donc, je m'appelle Hamid Ouidir, je suis parent d'élèves élus dans ce groupe scolaire, FCPE 93, contre l'échangeur, un échangeur qui emprisonnera dans une sorte de rond-point près de 700 élèves âgés de 3 ans à 12 ans.
Alors, on voit les cartes, là, vous avez affichées sur l'école.
À double sens. Et qu'est-ce qui alimente ce rond-point? 5 gigantesques bretelles. Donc on asphyxie un quartier entier pour attirer des promoteurs immobiliers. Donc en fait, pour des histoires foncières et financières, c'est toute une population avec ses enfants qui sont sacrifiés. Et ça, c'est intenable.
Donc là, ça, c'est ce qu'on appelle vraiment une injustice environnementale. L'inégalité environnementale, c'est principalement ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes qualités de vie, qu'ensuite, c'est un cercle vicieux parce qu'on va avoir des problèmes de santé, que le bruit s'annule à la concentration des gamins et que les JO s'appuient sur un tel échangeur autoroutier et des sorties d'autoroute à proximité d'une école. Alors qu'à Paris, on fait tout pour réduire le nombre de véhicules autour des écoles, ça nous paraît être une injustice terrible.
Et le peu d'espace vert qu'on a, il faut le sauvegarder. Je vous donne l'exemple. On construit une piscine olympique dans un parking à Aubervilliers. Bon, ça gêne personne, c'est un parking. Mais qu'est-ce que vient faire un solarium sur des parcelles Jardin des Vertus? Moi, ça me choque. Ça me choque. On n'a pas le droit d'utiliser en fait les Jeux Olympiques pour bétonner, pour faire des choses qu'on ne ferait pas en d'autres circonstances.
Et les jardins ouvriers, justement, on ira demain, puisqu'une mobilisation occupe en ce moment une partie des parcelles après la ZAD, la JAD, les jardins à défendre.
Voilà, demain pour la suite, Guy Vantil. Toxic Tour des JO en chantier, c'est un reportage à retrouver en podcast sur franceinter.fr et en version longue, on verra ça cet été.
À bientôt.
Samba Mambo de France Gall sur France Inter. Allez, encore une minute avec nos invités Emma Aziza et Jean-Michel Soubirous pour parler de la sécheresse. Est-ce que nous sommes prêts, est-ce que notre société est prête, Emma Aziza, à devoir se restreindre drastiquement sur sa consommation d'eau? 40-50% par exemple en Californie, 40% pour la Californie.
Beaucoup de gens le font déjà et ont tendance, d'ailleurs, ont bien compris le message d'effectivement de plutôt prendre des douches que des bains. Dans certains endroits, ça signifie rien. Par exemple, sur le bassin parisien, on a de l'eau en quantité et on n'a pas besoin de se restreindre. Et il faut bien comprendre que l'eau domestique, en fait, c'est 8% de l'utilisation de l'eau. Donc la grosse action qu'on peut mener, c'est principalement sur l'eau agricole et sur l'eau industrielle.
Ouais, Jean-Michel Soubirous, on ne va pas échapper aux restrictions, à votre avis ?
Il y en a déjà des restrictions, hein, donc on voit bien qu'il y a toute une gestion qui est délicate sur le territoire, donc avec des grandes inégalités. Dans certains territoires, on a un déséquilibre aujourd'hui qui est structurel, c'est-à-dire qu'on le retrouve tous les ans, parce qu'il y a plus de besoins que de disponibilité réellement au niveau de différentes ressources. Il y a aussi une autre problématique, c'est la démographie, c'est les populations qui se regroupent dans différentes zones, plus le tourisme, donc on a des zones qui sont vraiment sous pression aujourd'hui et en difficulté sur le territoire. territoire.
Allez, vous restez avec nous. Le sujet qui suit va vous intéresser. On file au Canada où il fait également très chaud.
France Inter. La Terre au carré.
Alexis Gacon, bonjour.
Bonjour Alexis.
Bonjour.
Alors vous êtes le correspondant au Canada de Reporter, journaliste radio également à Radio-Canada à Montréal, où on vous rejoint. Le Canada qui est en train de bouillir littéralement ces derniers jours, Alexis. Hein.
Oui, vraiment, en fait, ce sont des températures qu'on ne connaît tout simplement pas ici. 46 degrés 6 dimanche dans la petite ville de Lytton, ça c'est à 260 km de Vancouver. Et le record n'a duré qu'une journée, le lendemain, donc hier, on était à 47 degrés 5. C'est plus chaud même que ce que Las Vegas n'a jamais connu. Alors qu'en général, en juin, bon, la température moyenne, ça frôle plutôt les 25 degrés. Et cette vague, en plus, elle est très large, elle s'étale sur tout l'ouest, donc Colombie-Britannique jusqu'en Saskatchewan, donc au milieu des pays, du pays, dans les prairies.
Et Alexis, elle vient d'où cette vague de chaleur en fait ?
Alors, Environnement Canada, donc c'est l'agence fédérale de l'environnement ici, explique que c'est une masse d'air chaude qui remonte en fait à la base du Mexique et qui a traversé l'Amérique vers l'ouest. Et maintenant qu'elle est sur place, eh bien il n'y a pas de vent assez puissant pour la faire déguerpir en altitude. Donc elle est là depuis quelques jours et elle est pas partie pour déguerpir tout de suite. Et en plus de ça, il y a un effet cocotte minute, donc comme un couvercle qu'on appuie sur de l'eau bouillante, d'après les météorologues d'ici, parce qu'il y a un anticyclone, donc des hautes pression atmosphérique, et ça fait pression sur l'air au sol, et donc ça comprime l'air, et résultat, ça le réchauffe encore plus.
Avec en plus une impression de chaleur très humide, hein.
Ouais, c'est souvent le cas ici. Et je lisais la météorologue de CBC, donc la télé publique d'ici, Joanna Wagstaff, qui expliquait qu'en fait, ce type de chaleur, ça limite l'évaporation de la transpiration de notre peau. Donc en plus, notre sueur ne nous refroidit plus. Et c'est aussi pour ça que cette canicule, elle est dangereuse. Ça se ressent d'ailleurs dans le nombre d'appels qui sont faits au 911, donc le 911, le service d'urgence. Il y a 20 fois plus d'appels pour des insolations ou de la fatigue liée à la chaleur ce mois-ci par rapport à juin l'an dernier en Colombie-Britannique. Et on voit des écoles qui ont fermé en attendant que ça se calme, des magasins, des cliniques de vaccination contre le Covid qui ont annulé des rendez-vous. Et il n'y a plus de climatiseurs dans de nombreux magasins pour espérer être au frais aussi.
Et alors Alexis, on le sait, hein, l'Ouest canadien, c'est très montagneux avec les Rocheuses, la chaîne côtière Pacifique. Est-ce que cette vague-là joue sur la fonte des glaciers ?
Oui, en fait, elle s'accélère, que ce soit les glaciers ou le manteau neigeux, et résultat, ce sont les rivières qui trinquent. Elles sortent de leur lit, c'est le cas au nord de Vancouver, dans la vallée de Pemberton, où il y a des habitants qui ont dû être évacués. Et ça, c'est une conséquence directe de la vague de chaleur. Une autre, c'est la hausse de la pollution au niveau du sol. Vancouver alerte sur un haut niveau d'ozone troposphérique. Et ça, pareil, c'est dangereux pour la santé. Alors, la vague pourrait commencer à se dissiper demain dans le sud de la Colombie-Britannique, mais plus à l'est, par contre, il va falloir encore attendre la semaine prochaine. Donc il y a des agriculteurs, notamment des producteurs de bleuets ici, il y en a beaucoup qui ont peur pour leur récolte. Mais pendant ce temps-là, tout à l'est, à Terre-Neuve et Labrador, eh bien Environnement Canada envoie des avertissements de gel. Donc le mercure va passer sous zéro et ça va abîmer les cultures. Donc voilà, un gros coup de chaud côté Pacifique, coup de froid côté Atlantique Nord. Et ça, c'est la preuve que le pays est immense et aussi que c'est une terre un peu extrême niveau température.
Et Maziza, donc une réaction sur la situation au Canada.
Je trouve qu'on a vraiment une situation assez édifiante. Hein. On voit bien que quand on regarde les villes comme Seattle, on a des températures normales qui oscillent à cette même période entre 12 et 19 degrés. Oui. Là, on atteint des 47, bientôt peut-être même 50 degrés. Donc on voit bien qu'on arrive au bout d'un système. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce côté réfrigérant où fait tout le monde achète des climatiseurs et effectivement on a tendance à vouloir se réfrigérer. Le problème c'est qu'il y a une empreinte en fait énergétique extrêmement forte, une pression, et donc en fait on a des coupures massives d'énergie et donc derrière des corps qui se retrouvent encore plus directement vulnérables.
Merci beaucoup et merci à vous Alexis Gacon. On retrouve votre article sur cette question directement sur le site de Reporter, reporter.net. À très bientôt, merci.
Au revoir, Alexis.
Merci. Au revoir.